Certaines femmes étaient au début de leur grossesse. Et avec la torture, elles ont fait des fausses couches. Il y a aussi une femme qui a carrément accouché à l'Aïsba, la police islamique. Elle était en route vers l'hôpital avec sa mère parce qu'elle pensait que son bébé arrivait. Elle n'avait pas couvert ses yeux. Elles l'ont arrêtée et elle a accouché au poste. Alors qu'elle la torturait, elle a accouché. Elle a accouché sous la torture. Il y a eu plein de fausses couches là-bas. Ils n'avaient aucune pitié. Voilà, c'était ça notre métier, torturer les gens. On en a torturé tellement, je ne sais même plus combien. Je m'appelle Aïcha, c'est mon vrai prénom. Et chez Daesh, on m'appelait Kaka. Moi, j'étais à Raqqa. Au début, ils nous ont convaincus avec leurs discours religieux. Ils parlaient au nom de l'islam. Quand ils nous donnaient des cours sur le Coran, ils étaient très convaincants. C'était impossible de leur résister. Tu t'imaginais que ces gens étaient des anges venus du ciel rien que pour toi. Moi, je suis allée leur expliquer ma situation. Mon mari était mort en martyr, je n'avais plus d'argent. Ils m'ont proposé de travailler pour eux. Mais il me manquait un certificat de formation à la charia. À cette formation, ils nous apprenaient à réciter le Coran. Il y avait une trentaine ou une quarantaine de femmes. La mosquée était remplie de stagiaires. À l'examen, vous deviez réciter par cœur. Et vous deviez recommencer jusqu'à ce que vous réussissiez. Moi, il m'a fallu 3 mois pour l'avoir. Ils l'ont imposé aussi à des femmes analphabètes. Ils voulaient qu'elles passent le test. Ils les fouettaient pour qu'elles apprennent. Certaines d'entre elles n'ont jamais réussi, alors elles les ont gardées en prison. Elles n'ont jamais été libérées. Deux gars de Daesh sont venus chez moi et ils m'ont dit « Tu commences demain ». Le premier jour, ils nous ont donné des armes. Mon unité était composée de 10 femmes, 3 dans le bus, les 7 autres restaient au poste pour les séances de torture. Elles étaient grandes et imposantes pour faire peur aux gens. Et ils choisissaient exprès les femmes les plus dures, celles qui n'avaient de pitié pour personne. On ne devait pas trouiller dans les quartiers, sur les marchés. On cherchait des femmes dont les vêtements n'étaient pas conformes à la charia. On les arrêtait et on les embarquait à l'Aïsba. Même les petites filles de 10 ou 7 ans devaient porter des vêtements conformes à la charia. Une fille de 10 ans était considérée comme une adulte. Il lui imposait de s'habiller selon la charia. On devait rentrer au poste avec le bus rempli de femmes. On pouvait en avoir 30, 20 ou 40 ou 10. Ça dépendait des jours. Ça dépendait du nombre d'infractions. Mais on n'est jamais rentré bredouille. Les petites journées, on en avait au minimum une dizaine. On n'avait pas de vacances. Jamais de vacances. Une fois arrivées à l'Aïsba, elles étaient fouettées. Après les avoir flagellées, on les gardait quelques jours en cellule. Ensuite, ils leur faisaient acheter des vêtements conformes bien de chez eux. Et puis on les libérait. J'avais oublié tout ça. Ça me revient maintenant. Un jour, on a arrêté une femme qui avait mis du vernis. Elles ont pris une pince pour lui arracher les ongles parce qu'elle avait tout simplement mis du vernis à ongles. Mon pire souvenir, c'est quand on a arrêté une femme qui ne portait pas de niqab. Et pendant qu'on la torturait, j'ai découvert qu'elle était sourde et muette. Elle ne pouvait pas parler. Celle-là, je me suis vraiment sentie mal pour elle. Elles l'ont torturée alors qu'elle était sourde et muette. Elle ne pouvait tout simplement pas leur répondre. Si une femme marchait dans la rue sans être accompagnée, on l'arrêtait. Il fallait qu'elle soit accompagnée par son mari ou son frère. Celle qui marchait seule ou qui prenait un taxi sans son tuteur légal, on l'arrêtait. Nous aussi, on était sous surveillance. Il y avait une collègue dont le travail était de nous surveiller. Si jamais je n'arrêtais pas une personne sous prétexte que je la connaissais, cette collègue faisait aussitôt un rapport. Il n'y avait rien à faire, il fallait toutes les arrêter. Un jour, l'une d'entre nous a vu sa cousine ou sa voisine, enfin, c'était une connaissance. Elle nous a demandé de faire comme si de rien n'était. Mais l'autre, chargée de nous surveiller, elle a fait son rapport. Elle l'a balancé. Ils l'ont punie et virée de son travail. Elle a été emprisonnée, flagellée et torturée. Les femmes membres de Daesh fumaient. D'ailleurs, j'allais moi-même leur acheter leurs cigarettes. Une femme de mon quartier en vendait en cachette. Tout le monde fumait. Ils interdisaient aux gens de fumer, mais eux-mêmes fumaient. La chicha aussi. J'achetais du tabac à chicha pour elles. Je leur achetais des Amra, des American Legend, des Gauloises, toutes les marques. Ils fumaient de tout. Ils interdisaient l'alcool, mais eux, ils buvaient. Bon pour eux, haram pour les autres. Quand j'allais à l'hôpital, les médecins et les gens là-bas me montraient beaucoup de respect. Il y avait de la peur aussi, surtout de la peur. Quand ils apprenaient que j'étais de l'État islamique, ils étaient tous pétrifiés. Ils ne nous faisaient pas payer pour les soins. Ils faisaient payer les civils, mais pas nous. On leur faisait peur. Ils faisaient ce qu'on leur demandait, parce qu'ils avaient peur. Nous, on patrouillait avec notre bus et on livrait les femmes aux geôlières qui les emmenaient à la salle de torture. Là, l'émir de l'Aïsba venait les voir. Si l'une d'entre elles lui plaisait, il lui proposait le mariage. Il le lui demandait. Et si elle acceptait, il faisait les papiers de mariage et elle rentrait avec lui. Sinon, elle restait en prison et se faisait torturer. Il faisait du lavage de cerveau. Ils ne lâchaient pas les gens quand ils n'avaient pas réussi à les convaincre. Il y a des femmes qui les ont rejoints au combat, de vraies combattantes, qui ont pris les armes et qui ont été sur la ligne de front comme les hommes. Elles tenaient bon parce qu'elles étaient là-bas avec leur mari. Elles se disaient « Mon mari va au combat, donc je me bats à ses côtés ». Il y avait aussi des veuves de combattants, tombées en martyrs. Elles prenaient les armes pour venger leurs hommes. D'autres femmes étaient persuadées qu'elles iraient au paradis. Ils les ont convaincus d'aller jusqu'au bout, en faisant appel à leur foi. Moi, j'ai arrêté de travailler quand il y a eu l'offensive sur Raqqa. Mes collègues travaillaient toujours, mais moi, je suis partie. J'ai pris mes enfants et je suis partie, à cause des bombardements. On m'a placée en détention à Kobané, dans le camp d'Aïn Issa. J'y suis restée 2 mois. Et puis, ils m'ont libérée. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs que moi. J'ai torturé des gens, j'ai arrêté des gens. Je les ai torturés. Ne faites pas cette erreur. C'est mon seul message.